Chapitre 20. Le Reboutou. L'abbé Pierre Kerbériou était de ceux qui, une fois une résolution prise, s'y enferment comme dans un cercle de fer, dans un article de foi, et, quoi qu'il puisse en advenir, vont jusqu'au bout. Raffermi par la prière qu'il venait de faire dans la petite chapelle, bien convaincu de l'inspiration si inopinément transmise par la vue de la croix du loup, qui arrivait directement d'en haut et lui dictait la conduite à tenir, il monta dans la carriole de Maradour sans aucune des hésitations qui, auparavant, lui remuaient si violemment le cœur. D'abord, son conducteur, peu habitué à rester longtemps sans parler, avait tenté de lier conversation avec lui, mordu par l'ardente curiosité de savoir ce qu'il pouvait aller faire, lui, le recteur de Camaret, chez ce suspect personnage de la lande. Mais il s'était heurté immédiatement, dès les premiers mots, à un regard sévère, à un mutisme si farouche, qu'il avait vite compris qu'il valait mieux, pour lui, ne pas se mêler de cette affaire-là et garder ses questions pour une meilleure occasion. S'absorbant dans ses pensées, répondant à peine par un bref et distrait salut aux coups de chapeau et aux salutations que lui adressaient ceux de ses paroissiens qu'il rencontrait le long du chemin, le curé était tout à la démarche qu'il allait tenter, au caractère sacré de la mission qu'il accomplissait. Jusqu'à cet événement de la croix de mission, il ne s'était jamais occupé particulièrement de l'homme chez lequel il se rendait. Mais, au moment de l'aborder pour la première fois, d'entrer en relation avec lui, de lui parler, un flot grossissant d'idées montait tumultueusement en lui, roulant dans son cerveau, en un pêle-mêle brusque de torrents, tout ce qu'il avait appris, tout ce que l'Église lui avait enseigné sur ce point spécial, et un étonnement lui venait de sentir le terrible chaos de son esprit. Ce fut surtout quand il eut dépassé Crozon, puis Morgat, et qu'il eut commencé l'ascension de la route conduisant au cap de la Chèvre, que le vol des idées se pressa en lui, plus opaque. Une méfiance toute ecclésiastique, une vraie méfiance de prêtre du Moyen-Âge, au fur et à mesure qu'il avançait davantage, lui rentrait au cœur contre ce déclassé, habitué de lieux suspects, la lande, la solitude des falaises, habitant dans le voisinage de ces pierres troublantes, les menhirs, les dolmens, des monolithes entachés d'idolâtrie, et que nul signe religieux n'avait encore relevé de leur déchéance. À son sens, c'était à l'obstiné descendant des druides qu'il allait s'attaquer pour le bien de l'Église. Afin de se raffermir dans sa mission, il essayait de se rappeler les noms des grands saints bretons qui avaient converti peu à peu le pays, et il se figurait presque, comme eux, être en route pour détruire un dernier repère du paganisme armoricain. Aussi se trouva-t-il assiégé par le souvenir harcelant des faits et gestes de ses ancêtres de la religion gauloise, refoulés peu à peu de toutes les provinces et, en dernier lieu, réfugiés en Bretagne. Ce plateau élevé, où la carriole s'engageait, devait certainement être un de ceux qui leur servaient pour leur signal de résurrection durant la fameuse cérémonie de la nuit du 1er novembre. Pierre Kerbériou croyait assister à la mystérieuse fête. Partout, les feux avaient été éteints. Tout se noyait dans la nuit, tout semblait mort. Brusquement, une lueur flambait sur le cap de la Chèvre, le plus haut point du pays. Aussitôt, on rallumait les feux dans toutes les maisons. C'était la joie, le bruit, la vie, la renaissance des êtres et des choses. Là encore, comme à la pointe du rat, On avait dû entendre, autour de ces falaises, dans les mugissements de la tempête, passer les gémissantes âmes des morts que les tremblants pêcheurs des côtes conduisaient à l'île de Saint pour les faire comparaître devant le tribunal suprême de Semhan, juge des morts. Les vers connus du poète latin Claudius le poursuivaient de leurs syllabes sinistres, évocatrices de spectres. Les habitants de ce rivage entendent les ombres qui arrivent et gémissent. Ils voient passer le pâle fantôme des morts. Puis, un autre souvenir le hantait, cette parole fatidique de Merlin l'Enchanteur, retenue dans une case de sa mémoire. La poussière des anciens renaîtra. Et le reboutou lui semblait un reste de cette poussière païenne qui tentait de renaître. Qu'était-ce donc en effet que ce berger, habitué à lire le temps dans la nature, dans le scintillement des astres, dans les frissons de la lande, dans les couleurs de la mer, sinon un sorcier? Il n'avait de science que la longue observation des choses, de remèdes que l'usage assidu des plantes, des herbes cueillies avec une certaine intelligence dans les champs. Mais tout cela était en désaccord avec les institutions de l'Église. L'abbé Kerbiriou grommela tout haut, indigné. « Il guérit sans en avoir le droit !» Puis, plus bas, avec une violence jalouse, « Il ose donner des espoirs, des joies mystiques, sans en avoir le droit. Il remplace le médecin, le prêtre, tout !» Cela ramenait devant sa pensée toute cette fantasmagorie des feux follets, des intersignes, des lavandières nocturnes, visions suspectes, émanations d'en bas, qui sont le lutin d'autrefois, l'esprit familier des masures du Moyen-Âge, mais assombri par le temps, par l'atmosphère particulière de la Bretagne, et devenu, de gai qu'on le représentait, triste, lugubre, tel qu'il convient à ce pays de naufrage où règne la pensée de la mort. Ceux-là devaient être ses conseillers, ses collaborateurs, ses complices. Le prêtre, malgré sa foi chrétienne, malgré les révoltes de sa raison contre ses folles imaginations, secoua les épaules comme si un vent glacé eût brusquement soufflé sur lui. Ses yeux errèrent sur ce pays de désolation, avec la sensation que c'était bien là un terrain propice aux évocations dangereuses, un asile maudit, le refuge du sabbat. Et il sentait en cet instant, contre le reboutou, plus vigoureuse cette haine de l'Église d'autrefois, l'Église qui prêchait la résignation, l'attente de la mort, qui parlait de la vie comme d'un passage d'épreuves, d'une vallée de larmes, et combattait les guérisseurs de maux physiques. Il se souvenait avec un certain trouble que, au Moyen-Âge, l'Église tenait la nature pour suspecte, pour impure, et il eût voulu affirmer hautement cette répulsion, cette antique crainte du christianisme en face de la nature, tout bouleversé encore de la secrète attirance qu'il avait éprouvée la veille au bord de la mer et qui se cachait au fond de son âme bretonne. Satan n'avait-il pas été appelé non seulement le prince du monde, le prince des ténèbres, le roi des morts, mais aussi le prince de la nature? En se le rappelant, il avait l'inquiétante pensée d'avoir peut-être, comme son divin maître sur la montagne, subi l'assaut de l'immonde ennemi. La voiture de Mahadour arrivait au sommet de la route. Le conducteur, désignant la gauche, expliqua. « Si nous avions pris par l'ancienne route, monsieur le recteur, nous aurions longé ce qu'on appelle les alignements de Kerkoléor, des pierres du vieux temps que les gens assurent qu'il y en avait tout partout dans la lande. » Le prêtre eut un mouvement instinctif de recul, un froncement plus accentué des sourcils. Il fit seulement jeter vers d'autres idées « les pierres ». Dans ce mot ainsi articulé, il enfermait toute sa réprobation de prêtre pour la chose maudite, pour ces restes de la religion barbare et réprouvée. C'était autour de ces vestiges de druides que les fées naines, les Korrigwans dansaient la nuit au clair de lune ou sous le voile fin de la brume. Ces pierres, on assurait aussi que, la nuit de Noël, elles se déplaçaient, se promenaient, allaient se baigner dans les fontaines comme des êtres animés, et on en citait d'enlever à force de chevaux, revenant le lendemain à la même place. Il savait que les conciles avaient dû s'en occuper, tellement elles tenaient une place importante dans l'esprit des Bretons, qui en conservaient le culte superstitieux par quelque tenace et continu atavisme, et qu'ils avaient défendu de venir prier ou d'allumer des feux devant elles. Il répéta avec une sorte d'exaltation « Les pierres, les druides, le reboutou !» Une atmosphère ennemie l'enveloppait, pesait sur lui, lui qui était l'évangile, le dogme catholique, le christianisme, tandis que ce reboutou, ce descendant des druides, était les légendes, les invisibles de la lande et de la mer, le paganisme. Peu à peu, il s'encourageait dans la pensée de ne s'engager en rien avec celui qu'il allait visiter, de le traiter en ennemi, oubliant ses premières idées de charité, oubliant la maladie de son neveu et fanatisé par les mirages de cette terre désolée. De temps en temps, Maradour, tout en fouettant son cheval et en sifflotant vaguement un air quelconque, l'examinait à la dérobée, murmurant. « Il se parle tout seul à cette heure, notre recteur. À qui peut-il en avoir ?» Bien que prêtant parfois l'oreille, il ne parvenait pas à comprendre les rares bouts de phrases, les exclamations qui s'envolaient de la bouche tourmentée du prêtre et, bougonnant, reprenait. « Du latin qu'il se raconte là, faut croire !» Pour lui, Maradour, il avait été si souvent promené quelque touriste au cap de la chèvre que ces parages misérables ne parvenaient pas à avoir une influence morose sur sa gaieté naturelle, lui arrachant seulement quelques jurons contre le mauvais entretien de la route et les énormes cailloux semés dans les ornières. Malgré toutes les histoires, vraies ou fausses, racontées sur le reboutou, il ne voyait en Edelec Gualen qu'un guérisseur, plus malin que les médecins, et auquel, en cas de besoin, il eût été sans hésiter demander conseil, estimant, en sa philosophie naïve et peu compliquée, que c'est à celui qui guérit, point à d'autre, qu'il faut s'adresser. Pierre Kerbiriou, au contraire, grâce à sa culture d'esprit, à son instruction plus raffinée, subissait une série de sensations qui le troublaient étrangement, mettant son âme à la plus dure épreuve, en venant inquiéter sa croyance par le menaçant enveloppement de fantômes qui, pour lui, semblait surgir à chaque pas de ce sol hanté. Il éprouva presque un soulagement quand, un peu plus loin que le moulin, le conducteur, pointant tout à coup son regard devant lui, annonça « Voici la maison de tonton Nédélec !» Se haussant un peu, Kerbiriou demanda « Là-bas, à gauche, ce toit de chaume ?» Tout tapis à plat sur la lande, oui, monsieur le recteur. » Et, plus goguenard, en enveloppant sa monture d'un large coup de fouet qui claqua sec dans la sonorité ambiante de cette terre porphyrique, « Au gîte qu'il est pour sûr, le vieux renard, sa cheminée fume !» Un mince filet bleuâtre en sortait par moments, bientôt écrasé, rabattu par le vent, et faisant comme une brume où disparaissait un instant la pauvre masure. Maintenant, un intérêt plus vif secouait la torpeur qui avait précédemment engourdi l'abbé. Il ne s'agissait plus de visions vagues, de chimériques apparitions conçues par le cerveau. Il allait se trouver en face de l'homme lui-même, de celui qu'il considérait comme un concurrent si dangereux, comme un tel péril qu'il avait cru de son devoir de prêtre de l'exorciser publiquement. Celui-là, il fallait qu'il s'abaissât à venir lui demander de guérir son neveu, de le sauver à l'aide de ces mêmes remèdes que, au fond de son âme de prêtre, il jugeait peu orthodoxes et vaguement entachés de sorcellerie. Seulement, ainsi que cela lui était toujours arrivé en face du danger, ainsi qu'il avait pu en faire bien souvent la dure et fréquente épreuve durant la guerre, tout son sang-froid lui revint immédiatement. Il ramassa toutes ses forces pour lutter avec avantage si quelque combat s'engageait. Lorsque la voiture s'arrêta sur la route, c'est à peine s'il attendit qu'elle fût arrêtée pour sauter à terre en criant à Maradour « Reste là, je ne serai pas long !» Il franchit le petit mur bas, traversa la lande sans même jeter un regard au dolmen, tout à ce qu'il allait faire et, poussant du poing la porte basse, annonça avec son tutoiement autoritaire « Tu m'as demandé chez toi, Nedelec Gualen. Me voilà !» L'intérieur de la chaumière était si obscur que, bien qu'il eût de bons yeux et qu'il les plongeât curieusement dans cette épaisse pénombre, le curé ne put d'abord rien distinguer. Il resta quelques secondes hésitant, sans avancer, sa haute et noire silhouette encadrée dans l'ouverture de la porte, se disant « Maradour s'est trompé, il n'y a personne ». Cependant, un bruit incertain commença de s'élever tout au fond de la seconde pièce qui donnait dans celle sur laquelle béait la porte d'entrée. Une forme remua lentement, se rapprocha, et devant lui, presque à le toucher, Pierre Kerbiriou vit émerger de cette nuit de la cabane un être qu'il reconnut immédiatement. C'était Nedelec Gualen. La figure aux mille plis fins, en son encadrement de longs cheveux retombant par boucles emmêlées, leva sur le visiteur une telle face de souffrance, de si pitoyables yeux clairs, où le regard semblait pouvoir pénétrer jusqu'à l'âme, que, indécis, croyant être trompé par quelque extraordinaire ressemblance, le curé de Camaret eut un geste d'hésitation, de gêne, demandant « C'est Nedelec Gualen que je veux voir !» Les lèvres desséchées s'ouvrirent avec effort, et le vieillard balbutia « C'est moi, monsieur le recteur !» Puis, s'écartant un peu pour lui livrer passage « Donnez-vous la peine d'entrer ?» Le logis n'est pas riche, mais le Christ aimait la pauvreté. Vous ne la fuyez pas non plus, je sais, et je vous connais assez pour admirer en vous un de ses plus fidèles, de ses plus dignes représentants sur la terre. » Le prêtre arrivait avec une âme bouillante de zèle, de colère, chauffée par tous les ressouvenirs de l'Antiquité et du Moyen-Âge qui, le long de la route, avaient entretenu son fanatisme, prêt à parler haut et dur, à traiter ce malheureux comme il pensait que l'Église devait traiter un réprouvé. Il éprouva une émotion si différente de celle pour laquelle il s'était préparé qu'il ne trouva pas un mot à répondre. Il se laissa conduire par son hôte, machinalement, la pensée pleine de troubles, le cœur inquiet. Pourtant, il voulut réagir contre ce qu'il considérait comme une faiblesse et, la voix âpre, questionna. « Tu as refusé de venir voir mon neveu, Denis le Marec, qui est très malade. Pourquoi ?» Tous deux se trouvaient en ce moment dans la pénombre, sans quoi il eût pu voir sur le visage de son interlocuteur, en dépit de son navrement, le mince sourire résigné qui en était comme le cachet habituel, le coin caractéristique, tandis que celui-ci répondait « Vous seul, monsieur le recteur, avez le pouvoir de délier ce qui avait été lié, tout comme notre divin maître. C'était donc de votre bouche même qu'il me fallait recevoir un pareil ordre pour que je puisse m'y rendre. Vous m'avez interdit l'entrée de l'église et du presbytère. J'ai souffert beaucoup de cette interdiction, que je ne crois pas avoir méritée. Mais vous aviez parlé, je n'avais plus qu'à m'incliner. Parlez, et je vous obéirai encore. » Son visiteur eut un geste indécis de la main devant lui, mais l'argument était si juste qu'il chercha vainement une réponse et grommela « C'est bien !» Son tempérament puissant eût eu besoin de se heurter à une violence, à une contradiction. Cette douceur, cette résignation un peu plaintive, allèrent toucher au fond du cœur la fibre tendre que les êtres de pitié et de douleur y faisaient toujours vibrer. Ce ne pouvait être un impie, un être voué au démon, tout reboutou qu'il fût, cet homme qui parlait du Christ en ces termes. Seulement il paraissait voir Dieu à travers ses œuvres, à travers ses plantes qui guérissent, à travers ses phénomènes célestes, maritimes, terrestres, qui sont des signes où certains peuvent lire. Par un complet et brusque revirement de ses pensées, Pierre Kerbiriou songeait en ce moment que tout le succès de ce Nédélec Gualen venait peut-être de ce que l'Église, austère et rigide, défiante des hérésies, montre un Dieu abstrait que ne peuvent que difficilement comprendre ces âmes enfants des pécheurs et des humbles. S'interrogeant anxieusement, il se demanda s'il n'avait pas méconnu ce déshérité, s'il n'avait pas eu tort de le traiter en sorcier, en ennemi, quand, peut-être, il eût pu s'en faire un auxiliaire précieux pour la plus grande gloire de Dieu. De nouveau, la comparaison avec les menhirs sanctifiés s'imposa à son esprit, lui indiquant ce qu'il devait faire, de quelle manière il devait remplir son rôle d'apôtre, comment, au lieu de rejeter ce malheureux de son sein, l'Église aurait plus de véritable intérêt, montrerait plus de grandeur aussi, à se l'attacher, à le marquer de son sceau sacré. Pourtant, il lui paraissait dur de céder ainsi immédiatement, de se montrer faible devant celui qui lui avait résisté, qui avait osé lui indiquer son devoir. Il reprit, plus hautain, avec une dureté voulue. « Puisque tu as soigné autrefois Marianne, paraît-il, tu la connaissais assez pour savoir qu'elle venait de ma part. » D'un ton de respectueux entêtement, Gualen riposta. « Le serviteur ne peut défaire ce que le maître a fait. » Puis, comme s'il eût craint de fâcher le prêtre, il ajouta aussitôt. « Je tenais à ce que vous veniez sanctifier ma pauvre demeure de votre présence. » Et tout suppliant, « Moi aussi j'ai besoin de votre miséricorde, de vos secours pour quelqu'un que votre colère a frappé. » De la main, il désignait la chambre voisine. L'abbé Kerbiriou, pris de défiance, fit un vague mouvement en arrière, comme pour s'en aller. Mais le vieillard joignit ses mains osseuses, insistant. « Votre mission est de bénir. Je ne vous demande que cela. Bénissez ma pauvre enfant qui est malade, elle aussi, malade dans son cœur et dans son âme, si ce n'est dans son corps, et qui est cependant sans péché. » Après une courte lutte avec lui-même, le curé marcha résolument vers le fond de la chaumière. « Tu as raison, Nédélec Gualen, cet enfant n'est point coupable. » Lorsqu'il sortit, quelques minutes après, afin de regagner sa voiture, le reboutou, se baissant pour saisir la soutane du prêtre, la porta vivement à ses lèvres, avant que celui-ci eût pu l'en empêcher, et affirma, les yeux brillants, « Je sauverai Denis le Marec, je vous le jure !»